du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Dans des endroits comme ça, vraiment, tu te poses des questions. Comment on a glissé? Comment un projet de société nous échappe? Comment on laisse faire les choses? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça fait longtemps qu'on est là et on n'a vu personne. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. C'était plein de choses et tout ça, ça a sauté. Donc on se retrouve dans des campagnes qui sont réellement déshumanisées. Voilà, où tu sais que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas cultiver là-dedans tout seul avec tes petits bras. Quoi.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, et oui, que s'est-il passé pour que nos campagnes ressemblent à des déserts couverts par des champs à perte de vue perfusés aux produits chimiques? Le constat de Xavier Mathias, qui est maraîcher, est juste. C'est le résultat d'un projet de société qui aujourd'hui dévoile sa face sombre, une quête de croissance économique infinie sur une planète aux ressources limitées n'est pas durable. Les preuves s'accumulent, la biodiversité s'effondre, le climat se réchauffe, l'océan s'asphyxie et ce n'est que le début. But de l'addition à payer. Alors que pouvons-nous faire? Eh bien se retrousser les manches et agir. C'est en tout cas la position de nos deux invités. Ils auraient pu tranquillement profiter de la douceur de la vie occidentale en devenant ingénieurs et banquiers, mais ils ont ouvert les yeux sur le monde et leur vie a changé. Je vous les présente tout de suite. Bonjour Julien Vosnitsa.
Bonjour à tous, merci.
Le banquier, c'est vous. Alors, que s'est-il passé pour que vous changiez de trajectoire?
L'ex-banquier. En fait, j'ai juste pris conscience que le système financier, bancaire et financier, était un système qui était complètement hors sol et qui était basé sur absolument rien de tangible. Une création de monnaie ex nihilo, donc à partir de rien. Et à partir de ça, je me suis dit que c'était juste pas du tout corrélé à des ressources qui étaient finies. En fait, on a une course à la croissance, on cherche une croissance infinie dans un monde avec des ressources finies, donc ça n'a pas de sens en fait.
Et du coup, vous avez rencontré les gens du mouvement de Nuit Debout, vous avez fait un petit tour en France, vous êtes allé voir plein de gens qui donc réfléchissent à la finitude, on va dire, de ce modèle, et vous êtes engagé pour Sea Shepherd, donc une association de protection de la biodiversité des océans.
Oui, donc j'ai fait 4 campagnes avec eux sur 2 bateaux, les 2 premières en mer de Cortés au Mexique et les 2 suivantes entre Miami et les Caraïbes.
Et vous avez réalisé, à la suite de tout ce parcours, une vidéo sur YouTube sur le thème « Pourquoi tout va s'effondrer ?» qui a été vue plus de 270 000 fois. Et c'est la base du livre qui porte le même titre que vous venez de publier aux éditions « Les liens qui libèrent, tout va s'effondrer vraiment ?»
Ben, c'est ce que, à la fois, je pense et ce qu'à la fois de nombreux scientifiques pensent actuellement sur la situation du monde. Mais c'est justement le thème du débat d'aujourd'hui.
Entre autres. Alors, cela dit, on ne peut pas vous donner tort, puisque dans cette émission, on a introduit une chronique de la collapsologie. Chaque mois, désormais, la collapsologie étant justement la science de l'effondrement. Bonjour Maxime de Rostolan.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur, l'ingénieur, c'est vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de vie, ou comme vous l'écrivez dans votre dernier livre, de vous engager corps et âme il y a 20 ans?
Pareil que Julien, le constat amer que là, on va dans un mur, que tous les faisceaux d'indicateurs prouvent que il faut changer, et j'avais pas l'impression qu'on changeait, étant ingénieur en chimie en plus, formé pour pas mal de mes collègues qui sont maintenant qui travaillent chez Total, chez Bayer ou d'autres, j'avais l'impression qu'on continuait à alimenter le système. Et donc j'ai d'abord fait un tour du monde en camion sur le thème de l'eau, donc j'ai écrit un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde, c'était il y a un peu plus de 10 ans, et en rentrant j'ai bossé dans le développement durable, dans la pédagogie, le fait d'essayer de sensibiliser un peu les jeunes, et je me suis dit il faut changer de vitesse, il faut changer de braquet. Et c'est là que j'ai découvert le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature, on en avait déjà parlé ici. Et puis plus récemment, la permaculture. Et surtout, l'idée selon laquelle l'alimentation et l'agriculture sont les premières briques à poser pour changer de modèle. Et donc, depuis quelques années, j'ai monté l'association Ferme d'Avenir. Et c'est avec cette association qu'on essaie de faire la révolution dans le domaine agricole.
Alors au début, Ferme d'Avenir, c'était 1,5 hectare, 3 salaires. Aujourd'hui, c'est, vous me disiez juste avant cette émission, on a fait une réunion là, il faut qu'on agrandisse les salles, on est devenus trop nombreux.
Ouais, on est 17 là, salariés, on a diversifié nos activités, donc on a une activité de production avec plusieurs fermes qu'on gère nous-mêmes. On fait aussi de l'accompagnement de la transition des agriculteurs, comme on le voit dans le film. Donc ça, c'est le premier axe, c'est de la production. Ensuite, on fait de la formation, évidemment, notamment à un nouveau métier qu'on a appelé le métier de paysculteur, qui sont un peu des agitateurs de territoire, des gens qui vont catalyser les projets alimentaires territoriaux. Donc voilà, de la formation, on fait du financement, avec puisque c'est le nerf de la guerre, autant que de la terre d'ailleurs. Et donc avec Bluebees, donc la plateforme de financement qu'on a lancée en 2012, on finance et on a remis plus de 3,5 millions d'euros à des projets agroécologiques. Et enfin, ça c'est le dernier axe de nos activités, c'est de l'influence. C'est-à-dire que avant on appelait ça sensibilisation. Mais sensibiliser les gens, ça va pas assez loin parce qu'ils changent pas forcément leurs pratiques. Influencer les gens, c'est mieux. Et donc on essaye de les influencer dans le bon sens, aussi bien le grand public que les politiques.
Alors justement, pour partager votre démarche avec un public plus large, vous avez publié un livre, On a 20 ans pour changer le monde, sous-titre « Bonne nouvelle, c'est possible ». Donc c'est publié aux éditions Larousse, vous êtes donc plus optimiste que Julien.
Oh, on se retrouve sur pas mal de choses. Après, être optimiste, ça se décide aussi. Donc je pense que Julien est dans sa phase, mais on en a déjà parlé ensemble, dans la phase où après le déni et la colère arrive, le temps du constat. Personnellement, je pense que ce qu'il faut faire là maintenant, c'est essayer de fédérer les gens et de les emmener sur des lendemains qui chantent. Et il faut les dessiner, ces lendemains.
Vous êtes d'accord avec ça, Julien ?
J'aimerais bien pouvoir être d'accord avec ça. Enfin, j'aimerais bien être optimiste pour l'avenir, mais il n'y a rien qui nous pousse à être optimiste actuellement vis-à-vis d'augmentation de la température du globe, vis-à-vis de l'effondrement de la biodiversité. Je sais qu'il y a Maxime travaille énormément sur le fait de réaméliorer cette biodiversité dans les champs et de retrouver une agriculture qui soit pérenne, qui recrée de l'humus, qui recrée de la vie dans les sols. Le problème, c'est que c'est pour l'instant une petite initiative qui amène à grandir et j'espère que ça grandira au maximum, mais je doute très fort que ça puisse à terme.
C'est une question d'échelle.
C'est une question d'échelle, ouais. Et je lui souhaite la plus grande des réussites sur cette chose-là et je pense que les politiques devraient plus commencer à écouter ce genre de discours plutôt que des industriels de l'agroalimentaire ou des pesticides.
Alors, on va y revenir. Alors, la forme de votre livre, Maxime de Rostand-Lon, est assez efficace puisque vous adressez 20 lettres, finalement, à 20 personnes avec une question. Vous avez même écrit à Donald Trump.
Ouais.
Lui avez envoyé la lettre, vraiment.
Ouais, je l'ai envoyé à l'ambassade, mais bon, je suis pas sûr que j'ai une réponse. J'ai envoyé toutes les lettres et j'écris aussi bien à Guillaume Meurice qu'à la ministre de la Santé.
Guillaume Meurice, qui est journaliste sur France Inter.
Qu'à un agriculteur, plusieurs agriculteurs, à Pierre Rabhi, évidemment. L'idée, c'est de dire, la lettre me permet de glisser pas mal d'informations sur l'état du monde. Et évidemment, je partage le scepticisme de Julien sur le chemin qui arrive. Mais une fois que j'ai posé ce constat, l'idée, c'est d'être constructif et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et je leur pose une question à laquelle ils sont censés répondre par oui ou par non. Et comme j'avais un temps restreint ou que j'ai choisi de ce format-là, je décide qu'ils me répondent oui à la question, ce qui me permet de passer à la lettre suivante et d'essayer de montrer comment... L'idée, c'est de montrer comment on fédère différentes parties prenantes, différentes forces en présence autour d'un projet... dès lors qu'il est d'intérêt général. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est on a des biens communs qui sont menacés, qu'il faut préserver. Alors évidemment, il faut être lanceur d'alerte et dire ça va mal. Et plus on est à le faire et plus il y a d'initiatives de collapsologues dans ce sens-là, plus ce discours va être admis et compris. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de dire OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on a besoin d'être tous ensemble si on veut vraiment changer les choses.
Et depuis le 11 avril, le documentaire On a 20 ans pour changer le monde de Hélène Médigue sur l'histoire de Ferme d'Avenir, justement, tourne dans les salles de cinéma françaises. En voici un extrait.
C'est la base de la destruction des sols, c'est l'utilisation des engrais. Ça paraît incroyable, mais c'est ça qui a fait qu'on a perdu nos sols, parce que le fait de mettre des engrais, on a minéralisé trop vite la matière organique, on a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène, et à ce moment-là, on rentre dans un processus de destruction des sols.
Le drame de l'agriculture, c'est la guerre. La sortie de la guerre de 14, on avait d'énormes usines qui fabriquaient des nitrates pour les bombes, il faut les recycler en agriculture. Les tanks, on ne sait pas quoi en faire, on les recycle en tracteur. Les barbelés, on ne sait pas quoi en faire, on va arracher toutes les haies pour mettre des barbelés à la place des haies. Les gaz de combat, l'hypérite va être transformé en DTT, le type aura le prix Nobel pour ça. Et l'agent orange du Vietnam transformé en herbicide.
On achetait tant de tonnes d'engrais tous les ans, toujours un petit peu plus parce qu'il fallait encore produire plus. Et c'est toujours comme ça qu'on travaillait. Et vous ne posiez pas de questions, mais pas du tout.
Il est assez évident aujourd'hui, et les rapports s'accumulent, que ce que nous ingérons, probablement, est à l'origine d'un certain nombre de pathologies nouvelles et qui pèsent, si je prends que cet aspect-là, sur le déficit de la sécurité sociale.
Nous avons le pouvoir, nous pouvons, nous, citoyens, faire quelque chose. Et je pense qu'on peut le faire aussi un levier. Ça sera long, mais on peut le faire.
Lydia et Claude Bourguignon, spécialistes des sols, un agriculteur, Nicolas Hulot, actuel ministre de la Transition écologique, sont tous d'accord, il faut agir et on peut le faire, puisque Lydia Bourguignon le dit. Mais il y a du travail, hein, Maxime de Rostolan, parce que l'agriculture industrielle a fait beaucoup de dégâts, et comme vous l'écrivez dans votre livre, en plus tout le monde s'en fiche.
Ouais, c'est l'histoire d'une fuite en avant, en fait, on s'est désynchronisé de tout ça. À un moment, on s'est dit... alors déjà, c'est pas après la guerre, hein, ça c'est un mensonge, ou en tout cas une légende urbaine, c'est pas après la guerre qu'il a fallu mettre des gros tracteurs pour nourrir le monde. C'est pas vrai. La fin du rationnement en France, c'est en 48, et le gros du remembrement, c'est dans les années 60, le gros boom du remembrement. Donc c'est vraiment une volonté politique qui était de dire, il nous faut de la croissance. Donc pour avoir de la croissance, on va vendre des produits, on va vendre des tracteurs, on va... tout ce qui est gratuit et reproductible naturellement, on va l'interdire, et ça permettra d'avoir des euros, enfin à l'époque c'était des francs, et d'avoir un modèle économique. Modèle économique qui a totalement fait fi des réalités du terrain, et effectivement, 52% des animaux sauvages qui ont disparu en 40 ans, enfin, c'est quand même énorme, 80% des insectes en France en 30 ans, enfin, on n'est pas en train de vivre un petit truc là. On
30%
vit,
des oiseaux.
30% des oiseaux, on peut, la liste est longue. Et effectivement, quand on regarde aussi les impacts de l'agriculture sur la santé, sur la qualité des cours d'eau, sur l'emploi, sur la qualité de l'eau, enfin, tout converge pour dire, en fait, ce modèle ne fonctionne pas. Clairement, il a fonctionné pendant quelques années au niveau économique, super. Maintenant, on ne mangera pas d'argent dans 50 ans si jamais on ne sait plus rien produire. Et moi, le chiffre qui m'a vraiment fait basculer, c'est l'efficacité énergétique. C'est de savoir que dans les années 40, avec une calorie d'énergie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10, et même 15 aux États-Unis. J'ai vu ça avec Pablo Servigne pour les sources de mon bouquin. Aujourd'hui, aux États-Unis, il faut 15 calories fossiles pour faire une seule calorie alimentaire. On mange du pétrole. Le jour où le baril vaut 200 $, on ne sait plus se nourrir. C'est juste une hérésie et il faut absolument en changer. Et y a urgence. Je pense qu'on a 20 ans pour le faire. Et donc on commence.
Voilà des messages importants à faire passer à l'heure où de nombreux pays en développement choisissent leur modèle agricole.
Fini de construire le monde, j'espère qu'il restera encore quelques secondes. Quand on aura fini de saccager la terre, j'espère qu'il restera ce rayon de lumière. Ces secondes, on les prend, c'est pas toi qui les compte. Ça finit dans le vent, qui descend, qui remonte. Et c'est ça qui nous tue, c'est pour ça qu'on est nus. Jusqu'à perte de vue, on traverse la rue. Quand on aura fini de se battre entre nous, j'espère qu'il restera un morceau de nos joues. Quand on aura fini de se ronger les sangs, j'espère qu'il restera un après, un avant. Ces regards on les prend, c'est des coups de couteau, c'est la main qui se tend, c'est pourquoi l'on est beau. Au bout de l'avenue, on s'est pas retenu, jusqu'à perte de vue, on traverse la rue. Je vais bien, tu sais, je vais bien, tu sais, je vais. Je vais bien, tu sais. Je vais. Je vais bien, tu sais. Je vais. fini de laver notre linge. J'espère qu'il restera des chevaux et des singes. Quand on aura fini de se croire tout permis, j'espère qu'il restera ce pourquoi on se l'est dit. Ces paroles je les prends, jusqu'à coûte que croûte, on va foncer dedans, jusqu'à sortie de route, et dans les résidus, juste après le talus, jusqu'à perte de vue, on traverse la rue. Quand on aura fini de refaire le monde, j'espère qu'il restera encore quelques secondes. Quand on aura fini de plus croire en la vie, c'est qu'il nous restera quelque part une envie. Ces sourires je les prends, c'est pas toi qui les donne, jusqu'à la nuit des temps, c'est nos cœurs qui résonnent, comme j'avais jamais vu le bout de l'avenue, jusqu'à perte de vue, je traverse la rue. Je vais bien, tu sais, je vais bien, tu sais, je vais bien, tu sais, je vais. Je vais bien, tu sais, je vais. Je vais.
Christian Olivier, je vais bien sur RFI dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous, on est extrêmement centralisés. On a des organes vitaux. On coupe le cou, c'est terminé. On perce le cœur, c'est terminé. Il n'y a pas l'équivalent sur des plantes, ni notamment sur des arbres. Tuer un arbre, c'est très difficile. Alors, on me dit, il suffit de le couper. Non, parce qu'il y a la partie qui tombe, qui va s'enraciner et qui va donner des rejets. Et ça va finir par faire une ligne d'arbre. Et puis, il y a la partie qui reste, qui va donner des rejets. Et généralement, ça stimule la production de drageons par les racines. Donc au lieu d'un arbre, on en a plusieurs centaines à la fin.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
C'était l'extraordinaire Francis Allais, spécialiste des arbres. Vous écoutez, c'est pas du vent, vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d'Avenir, qui vient de publier On a 20 ans pour changer le monde, et de Julien Vosnitsa, auteur de Pourquoi tout va s'effondrer. Julien Vosnitsa, vous vouliez réagir au titre du livre de Maxime.
Oui, ben le titre, je le trouve parfaitement d'actualité, parce qu'on a 20 ans pour changer le monde, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas on a 19 ans pour rester comme aujourd'hui et on verra la 20e année. C'est on a 20 ans pour radicalement changer la face de la planète, radicalement changer notre modèle agricole. Et il faut que dans 20 ans, notre modèle agricole est complètement changé par rapport à aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on commence aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on commence dans 19 ans et 6 mois.
Vous voulez dire que ce serait une petite tendance actuelle de procrastiner, comme on dit.
La procrastination, oui, clairement.
De remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.
Ouais, mais d'un point de vue écologique, ça ne marche pas trop.
Non, il y a un peu urgence. Alors, dans le documentaire de Hélène Médig, On a 20 ans pour changer le monde, qui est sorti donc le 11 avril dans les salles françaises, on entend le témoignage de Vincent Louot, qui travaille avec vous, Maxime de Rostolan. C'est un agriculteur qui pratique la monoculture aujourd'hui, qui utilise des produits chimiques, encore, on va dire, sur une trentaine d'hectares. Mais il se pose des questions qui sont bonnes à entendre sur la durabilité du modèle.
Là où on voit qu'il y a un problème, c'est qu'on a industrialisé l'agriculture. Moi je produis de la matière première qui est du blé. Je ne sais pas ce qui devient après. Soit il part au port, il est exporté, soit il va chez un meunier, soit il est utilisé pour faire de l'éthanol, je ne sais pas trop ce qu'ils en font. Et le problème, c'est qu'on a perdu tout le sens de notre métier, en fait. Passer du bio ou faire un projet sur l'agriculture, pour un agriculteur comme moi, les agriculteurs aujourd'hui, ils se plaignent de quoi ? On a perdu le sens de notre métier. Si demain, on peut avoir de la matière grise qui vient sur des projets, ce qu'il faut, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir.
Ben ouais,
c'est ça. Xavier, il la connaît, la musique.
Mais qu'on réfléchisse à un vrai projet où vous diriez, moi, aujourd'hui, il y a 30 hectares de jachère, je suis prêt à en mettre 10 en production, que ce soit maraîchère ou grande culture. Super.
Pas de problème. Dis, ça marche.
Bon, c'est cool.
Écoute, bon, Xavier, on n'est pas venu pour rien.
Oui, oui, oui.
Au revoir. Merci. Maxime de Rosselin, l'ouverture d'esprit de Vincent Louault est louable, hein, mais vous n'allez pas pouvoir faire du porte-à-porte chez tous les agriculteurs français ou européens comme vous le faites là, ou, et je ne parle pas des Américains ou des investisseurs dans le soja ou le maïs transgénique en Amérique du Sud.
Oui, clairement, il y a un gros chantier, hein. il y a du boulot. Après, en France, il y a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2025. Alors bon, c'est peut-être une opportunité pour renouveler à la fois les générations d'agriculteurs et de paysans et les techniques. Donc c'est plutôt ce sur quoi on travaille. Et alors Vincent, on travaille ensemble, on essaye, on creuse ensemble les différentes options. Et petit à petit, on espère même faire tache d'huile. Ça a déjà été le cas, puisqu'en fait, ses voisins, ils sont une dizaine à réfléchir depuis quelques années à leur transition. Et puis on a fini par faire une réunion à 12. Et là, c'est plus 300 hectares dont il s'agit. C'est potentiellement des centaines, des milliers d'hectares à convertir. Les agriculteurs, ils ne sont pas responsables de ces techniques. Ils en ont hérité, en fait. C'est un modèle qui a peut-être été légitime en son temps et qui a été perpétué parce que voilà, la formation a été dans ce sens-là. Maintenant, eux, ils sont tout à fait conscients des limites de leur modèle. Vincent l'explique beaucoup. Il a des mauvaises herbes qui résistent à tout. Il n'y a plus d'auxiliaires, il n'y a plus de pollinisateurs. Enfin, il y a un moment où voilà, ils sont en plein dedans, quoi. Et donc, beaucoup d'entre eux ont envie de changer. La question, c'est de savoir qui va porter les investissements et le risque. Est-ce que c'est à eux, que c'est sur leurs épaules que ça doit reposer, ou est-ce que l'État contribue? Est-ce que les entreprises qui, depuis des années, ont bénéficié d'une matière première pas chère? On a quand même tiré les prix vers le bas pendant 35 ans et on arrive à un point où vraiment la richesse, la valeur n'est pas du tout répartie uniformément. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment aux industriels du secteur de s'engager pour amorcer cette transition. Et c'est un peu ce qu'on fait. Enfin, c'est pas un peu ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait totalement avec des entreprises et avec des territoires.
Alors, dans le documentaire, Hélène Le Ténot du comité scientifique de Ferme d'Avenir explique que vous avez travaillé pour produire un document qui démontre justement que développer l'agroécologie en France serait extrêmement rentable à tous les points de vue.
Bah, en fait, c'est surtout de dire que l'agriculture chimique coûte très cher. Elle coûte très cher. Alors bien sûr, ça ne se voit pas sur le ticket, sur la valeur du produit qu'on achète. Mais parce que des dizaines, des centaines de lobbyistes travaillent depuis des années d'arrache-pied pour l'agro-industrie, pour réussir à externaliser les impacts de leurs pratiques. Autrement dit, ils disent « Ah, il y a des algues vertes ». Très bien, mais ça n'a rien à voir avec nous, les algues vertes. Pourquoi nous, on paierait ? Allez, on va mettre ça sur les impôts et puis ça relève des impôts publics. Les problèmes de santé ? Oh non, il n'y a aucun lien entre la santé et la malbouffe. Non, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de répercuter ce coût sur la valeur de nos produits. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réintégrer ça. Il faut réintégrer les externalités parce qu'il y a une distorsion de concurrence terrible entre un agriculteur chimique qui fait les trucs comme il le souhaite et qui a des externalités négatives sur plein de postes de dépenses, la biodiversité également. Et donc une distorsion de concurrence entre cet agriculteur-là qui fait porter les coûts à la charge des citoyens et un agriculteur biologique ou un mec qui fait de l'agroécologie qui, lui, investit son temps, son argent dans le capital naturel et le capital humain pour préserver des liens sur le territoire, etc. Et ça, c'est à sa charge. C'est pas normal. Donc, du coup, on dit, il faut...
Et, nous, et
on
c'est aussi un moyen de créer de l'emploi, parce que, finalement, l'agroécologie emploie du monde, hein, contrairement à l'agriculture industrielle.
En tout cas, nous, on dit que, bien sûr, ça va employer beaucoup de gens, ce qui est sûr, parce que ça, on peut...
Vous dites 200 000 emplois.
Ouais, nous, on veut créer 200 000 emplois, bien sûr. Mais on nous dit que c'est ça qui... Ils nous demandent mais pour comment vous allez créer de l'emploi? On pense que les techniques prouvent qu'il faut plus de bras pour aller dans l'agroécologie, mais c'est surtout que l'agriculture industrielle, clairement, alors là c'est avéré, elle a détruit 80% des emplois de paysans sur les 30 dernières années.
Enfin, donc là, aujourd'hui, en France, 3% de la population active, à peine 2%, oui, ça baisse de plus en plus, et dans l'agriculture.
Bien sûr, c'est rien du tout, et ça ne marche pas. Une société qui se repose seulement sur 2% des actifs pour se nourrir, elle est évidemment obligée d'importer, ou évidemment obligée de manger des trucs de mauvaise qualité qui sont faits par des machines, bientôt des robots, et je ne sais pas quand les vaches ressembleront à des robots. Il y en a déjà qui ont des hublots. Pour les besoins des recherches, mais bon.
Julien, et encore, on ne parle pas des taux de suicide des agriculteurs aussi, qui est en forte hausse. Il y a un autre point où je voulais rebondir, c'était sur l'histoire de capital naturel et capital humain. Notre société ne donne absolument aucune valeur au capital humain et au capital naturel notamment, alors que tout le capital financier a une valeur. Et c'est justement là où Maxime travaille, et c'est extrêmement pertinent d'essayer de faire ce changement de paradigme-là, de manière à trouver une valeur, une valorisation dans notre société du capital naturel et du capital humain.
C'est un peu triste d'avoir à en arriver là, on est d'accord, parce que mettre des euros sur les abeilles ou les vers de terre, c'est un peu contre-intuitif. Mais comme c'est la seule chose qui aujourd'hui régit notre modèle, il faut intégrer dans les règles comptables, vraiment dans les règles comptables, les impacts sur le capital naturel et sur le capital humain. Une profession dans laquelle il y a deux fois plus de suicides, on va dire une vie humaine, ça coûte 1 million d'euros, boum, il y a deux fois plus de suicides, donc cette profession doit contribuer et donner tant de millions d'euros à la société. Enfin, et moi, mon but, mon rêve, ce serait que les impôts des entreprises soient calibrés en fonction de leurs externalités et de leur impact. On appelle ça la comptabilité en triple capital, et je vous invite à regarder ce que ça veut dire. Mais clairement, il faut commencer à porter ces sujets-là, il faut changer de lunettes pour pouvoir compter ce qui compte vraiment.
Alors, pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit lorsque l'on parle d'agroécologie, je vous propose un petit cours audio par le maraîcher formateur Xavier Mathias, extrait du documentaire à nouveau de Hélène Médi.
Donc concrètement, là aujourd'hui, si on n'a plus de chimie de synthèse.
Si on n'a pas la chimie de synthèse, par exemple, pour produire l'azote, comment on fait? Puisqu'il faut de l'azote pour que les plantes poussent. Et bien, on peut faire comme ça. Donc ici, tu vois, ça, c'est de la févrole. Donc la févrole, c'est une légumineuse. Donc elle fixe l'azote atmosphérique, elle le restitue dans le sol. Concrètement, ton sol, il est plus riche en azote après une culture de fèves, de haricots, de pois, de sainfoin, etc. Il est plus riche après qu'avant. Par contre, encore une fois, voilà, faire un couvert de feuilles, semer dans le couvert de la févrole, ah oui, ça c'est sûr que c'est plus long que remplir un épandeur à engrais, faire le tour et puis balancer de l'engrais. Donc après, l'idée, c'est pas de vouloir imiter la nature, mais c'est de s'en inspirer, de s'apercevoir que non, elle laisse pas la terre à nu pendant un temps long. Donc à nous de maîtriser maintenant comment on va maintenir notre sol couvert. C'est tout bête, mais dans la nature, il n'y a pas de sol nu. Les seuls sols nus qu'on voit, c'est les déserts de sable, les déserts de glace et les champs cultivés. Donc c'est pour ça, tu vois, ici, il n'y a pas de sol nu. Ici, c'est une zone qui est pédagogique, on est dans une école, donc on voit différentes manières de couvrir le sol. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est que, voilà, étaler de la feuille comme ça, alors tu peux regarder déjà ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder le sol en dessous, voilà. Tu vois, regarde. Là, tu plantes hein, là-dedans. Là, tu n'as pas besoin de le retravailler ton sol. Hein. Là, tu plantes dedans. Hein. Ce qu'on appelle, le mot est assez rigolo, on appelle ça du couscous. Bah oui, c'est vraiment ça, quoi. Et là, il n'y a pas eu un coup de bêche, un coup de labour ou quoi que ce soit. Et c'est parfaitement meuble. Là, c'est prêt à accueillir des plantes.
Voilà un conseil simple, hein, par exemple, Maxime de Rosselon, très concret pour nos auditeurs qui nous entendent, ne jamais laisser un sol à nu.
Bah oui, comme dans la nature, dans la forêt, vous ne trouverez jamais de terre à nu. Moi, il y a deux enseignements de la nature. C'est le premier, c'est toujours avoir de la vie dans le sol, et donc du coup donner, alimenter le sol. On nourrit pas la plante, on nourrit le sol en vrai. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième enseignement, c'est la diversité. C'est la seule clé de la résilience. On ne peut survivre aux chocs et aux aléas que si on est diversifié. Et en fait, la monoculture est une aberration. Et donc du coup, pour diversifier, l'une des premières techniques qu'on peut inviter les auditeurs à faire si jamais ils ont un petit champ ou un petit bout de jardin, c'est de planter des arbres. Planter des arbres, c'est absolument indispensable. On en parle un petit peu dans le film. C'est quelque chose d'important. C'est un refuge à biodiversité. Ça permet d'aller chercher des nutriments ou des oligo-éléments plus profondément dans le sol et de les remonter. Enfin, ça permet de faire circuler l'eau. Enfin, voilà. Avoir coupé les arbres, c'est une hérésie. J'espère qu'on y reviendra et même qu'on financera ça. Et on essaye de faire passer des propositions d'amendements en ce sens, en disant qu'il faut des incitations fiscales pour... Alors, comme on le fait pour les tracteurs. Hein, aujourd'hui, on aide avec des incitations fiscales les agriculteurs à se doter de grosses machines, de gros tracteurs, de fermes de plus en plus grosses et modernes. Et ben on dit OK, très bien, vous continuez à faire ça. Nous, on préconise l'investissement dans le capital naturel et donc planter des arbres. Et donc, que les agriculteurs puissent avoir des crédits d'impôt ou puissent passer ça en suramortissement s'ils le souhaitent. Quoi. Mais voilà, il faut aller dans ce sens-là.
Alors Julien disait tout à l'heure, on a peu de temps, on a très peu de temps et le système est vraiment coincé dans une inertie très forte. Alors en février 2017, vous avez reçu en Touraine, hein, sur le domaine de Ferme d'Avenir, un candidat à la présidence de la République qui est depuis devenu président. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Un moment capté par la caméra de Hélène Médig.
Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer et devenir paysans. beaucoup, et qui d'ailleurs veulent adopter des nouveaux modèles de production. On parle beaucoup des plans d'avenir, on l'a jamais fait pour l'agriculture. On a décidé d'avoir un vrai plan de 5 milliards pour les accompagner, la montée en gamme.
Je vous demande d'où vient ce chiffre. On a fait une petite pétition, Ferme d'avenir, dans laquelle on propose un plan d'investissement d'avenir de 5 milliards. Exactement. C'est la direction d'Hélène.
Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est très important de réconcilier les modèles. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps opposé l'écologie et l'agriculture.
Les agriculteurs ont hérité d'un modèle qui a été légitime en son temps, mais qu'il faut absolument réformer, il faut les aider pour le faire. Ils sont tous volontaires. Ils en ont marre d'être accusés aussi et d'être acculés. Et effectivement, ils sont pointés du doigt, ils y sont pour pas grand-chose. Et donc il faut juste leur donner les moyens et les orientations pour le faire. Dire, dans 25 ans, plus de pesticides. C'est tout. Dans 25 ans, plus de pesticides et on y arrive. C'est faisable. Donc il faut juste le faire. C'est pour le bien de tout le monde. Et si jamais vous avez le loisir d'être ou je ne sais pas si c'est un loisir, en tout cas, l'occasion d'être au plus haut de fonction de ce pays, j'espère que vous saurez donner cette orientation pour que dans 25 ans, on ne puisse plus dire on n'est pas efficace, on empoisonne nos enfants et puis on détruit la biodiversité. C'est le seul capital naturel qu'on a. Tenez, monsieur Macron.
Que les projets soient
En mâche. Allez-y, sur le plus loin possible, quoi. Le plus loin possible pour de vrai.
Mais moi, ce que je fais, quand je dis les choses, c'est pour le faire.
Alors, Maxime de Rostolan, là, vous souriez. Mais c'est quand même ça, ce que vous a dit le président Emmanuel Macron. Donc, un an et demi après, quel bilan faites-vous ?
Le bilan, c'est que le temps de la politique n'est pas forcément le temps de l'entrepreneuriat, et que souvent des entrepreneurs peuvent aller plus vite que les politiques. On a assisté à des états généraux de l'alimentation qui avaient au moins le mérite de mettre tout le monde autour de la même table, de constater les divergences, sur le constat notamment,
oui.
Mais de trouver aussi
sur le bilan aussi, quand même.
Sur le bilan, bien sûr.
Les divergences sont restées bien profondes.
Non, et après, donc ça, c'est sur le déroulé des états généraux, il y a eu des divergences sur les constats, etc. Mais ensuite, sur ce dont ont accouché ces états généraux, on est tous d'accord pour dire que c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Il est important de continuer parce qu'on a plein d'idées. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'investissement dans les arbres, par exemple, on veut faire des aménagements fiscaux, on veut faire des aides à l'emploi, parce que c'est le terme est un peu délicat en ce moment, mais au moins de permettre aux fermes agroécologiques d'employer plus facilement des gens et que ça leur coûte moins cher. Moi, je pense juste que j'aimerais pas être politique là tout de suite, parce que les forces en présence avec lesquelles doivent composer les membres du gouvernement, je parle pour Nicolas Hulot que je connais bien, c'est compliqué.
Le ministre de la transition,
il doit composer avec l'ensemble des acteurs et des forces en présence, ce que nous, on n'a pas besoin de faire. C'est-à-dire que nous, on peut aller choisir les gens avec qui on sait qu'on a envie de travailler et qui ont des valeurs communes. Et c'est très compliqué, on voit
mais
bien.
Mais prenons l'exemple du glyphosate, par exemple, qui a beaucoup fait parler il y a quelques mois, qui est donc un produit chimique puissant. Et Emmanuel Macron a dit il faut ne plus utiliser de glyphosate d'ici 3 ans.
Ouais.
Et vous trouvez ça courageux de dire 3 ans ? Parce qu'il y a des voix qui sont élevées pour dire qu'il faudrait tout arrêter tout de suite.
Alors tout arrêter tout de suite, ça ne sert à rien de le dire, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si demain vous demandez aux agriculteurs qui utilisent du glyphosate d'arrêter du jour au lendemain, ça ne marchera pas. Ils vont se remettre à labourer, pour certains, ce qui n'est pas souhaitable. Et d'autres n'arriveront tout simplement pas à nettoyer leurs champs, parce que c'est un herbicide, le glyphosate, et aujourd'hui, on ne sait pas. Il faut allonger les rotations, il faut intégrer de l'élevage dans les grandes monocultures. Donc
3 ans, c'est une bonne échelle ?
3 ans, c'est jouable. Mais comme le disait Julien tout à l'heure, c'est pas on reste pendant 2 ans sans rien faire et puis la 3e année, on change. Il faut changer dès maintenant. Et ça, c'est ambitieux. Je pense qu'il y aura forcément des dérogations parce que c'est clairement compliqué, pour avoir parlé avec beaucoup d'agriculteurs qui défendent un usage raisonné, entre guillemets, du glyphosate. Sachant que chacun met la raison là où il le souhaite, c'est compliqué. Mais je trouve que c'est courageux de continuer à affirmer ça et à le garder en ligne de mire, quoi. Après, ce que je trouve impressionnant, c'est que le président a compris beaucoup de choses sur l'agriculture, et il ne s'épargne aucun débat avec des agriculteurs. Pour avoir été plusieurs fois à des réunions avec des agriculteurs à l'Élysée, je garantis qu'il n'y en a pas un qui ait pu aller là-bas et qui peut prétendre qu'il voulait parler au président et qu'il n'a pas réussi. Vraiment, à chaque fois, il fait le service après-vente et il comprend pas mal de choses. Mais
ça ne va pas assez vite, Julien. Les yeux au ciel. On sent l'urgence, évidemment, mais c'est vrai qu'il faut aussi
Non, en fait,
tenir
on a des verrous dans notre
politique.
Société énormes, et donc on a des magnifiques projets qui se montent, mais qui sont sur des temporalités à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc là, par exemple, 20 ans pour changer l'agriculture. Si maintenant on se met justement tous ensemble, qu'il y a des moyens et que les politiques le prennent en compte et commencent maintenant à mettre des vrais moyens derrière cette idée, ok, on peut le faire. Actuellement, on ne donne pas des moyens pour changer cette agriculture-là. Moi, dans mon livre, je parle juste au bout d'un moment d'une raison de survie. C'est-à-dire que sans nourriture, on ne mange pas. C'est très simple, c'est juste quelque chose d'assez basique. Hein. Et en fait, si on continue toujours sur cette agriculture pesticidée, les rendements des sols, les rendements des champs diminuent. Et avec une population qui augmente, les mathématiques sont faciles à faire. On va arriver à des pénuries de nourriture.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Julien Vosnitsa, auteur de Pourquoi tout va s'effondrer, et de Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d'Avenir, qui vient de publier On a 20 ans pour changer le monde. Alors, nous avons beaucoup parlé d'agriculture dans cette émission, mais il y a d'autres enjeux qui expliquent ce risque d'effondrement dont vous parlez, Julien. Par exemple, la pollution qui asphyxie les océans. Les explications de Jean-François Guiglione. Il est chercheur au laboratoire d'océanographie microbienne de Banyuls.
La pollution est assez multiple, donc on n'a pas une pollution simplement par des pesticides à des endroits ou des métaux lourds à d'autres endroits. En fait, la pollution est globale, elle touche tous les océans. On sait que, par exemple, si on va prendre de la glace en Antarctique ou en Arctique, on trouve des polluants. Il faut voir en fait que la nature, elle n'a pas vraiment de frontières. On a une dispersion de tous les polluants sur la planète. Bah, évidemment, il y a les pesticides, il y a les métaux lourds, il y a toute l'industrie en fait humaine. Quoi qu'il arrive, n'importe quel déchet va finalement arriver en mer. Et donc le problème des plastiques, c'est typique des pollutions humaines qui vont, bah, par exemple, si je lâche un sac plastique en montagne, sachant que la durée du plastique dure entre 100 et 400 ans, et bien il va avoir largement le temps d'arriver en mer. Et c'est le cas de plein de polluants différents. Et le plastique, quelque part, c'est un peu un fer de lance aujourd'hui qui parle de la pollution de nos océans. Alors les quantités, elles commencent à être connues. On a plus de 300 000 tonnes de plastique qui sont trouvées dans les océans. Ça, c'est équivalent à ce qui est produit aujourd'hui sur la Terre. Donc globalement, en fait, on a 10% de la production mondiale qui arrive dans l'océan, donc qui n'est pas collectée et qui, au final, termine sa vie dans les océans. La production mondiale de plastique, elle a augmenté de 20 pendant les 50 dernières années. Elle va encore augmenter de 2 pendant les 20 prochaines années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 300 milliards de tonnes, on va passer à 600 milliards de tonnes. Et tout ça, en fait, bah, ça fait toujours, les 10% vont toujours arriver en mer parce qu'on a des problèmes de collecte, etc. Et on sait que bah, on a de plus en plus de plastique qui arrive en mer. Les prédictions, par exemple, pour la Méditerranée, c'est que d'ici 2030, on va avoir encore une augmentation de 8%.
Julien Vosnitsa, comment réagissez-vous à ce tableau ?
Bah, il est assez noir, hein, déjà, enfin, de prime abord. Il y a 99% des poissons aujourd'hui qui sont censés avoir ingéré du plastique. Mais de ce côté-là, en fait, on arrive à quelque chose produit par les humains, qui est un polluant et qui se retrouve dans tous les échelons de la chaîne alimentaire marine, en fait. On va retrouver du plastique jusque dans du phytoplancton. Et la plupart des polluants plastiques font la taille d'une petite miette de pain, en fait.
Alors, je le disais en début d'émission, vous avez décidé d'agir. Et alors là, vous avez un projet de bateau. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Avec une association que j'ai montée qui s'appelle Wings of the Ocean, les ailes de l'océan, on affrète un navire, un trois-mâts de 47 mètres de long pour justement emmener des scientifiques à bord, histoire de pouvoir étudier les continents plastiques, en retirer le maximum et en retirer des filets dérivants qui sont aussi un fléau de nos océans. Oui.
Et donc, ce sera des croisières écologiques, c'est ça ?
Bah, l'idée, c'est que on a 38 places sur le bateau. Il y en a 14 qui sont destinées aux scientifiques et à mon équipage. Et le reste, il reste 24 places pour des écotouristes qui voudraient venir sur le bateau, apprendre la navigation et justement aider un petit peu les scientifiques, aider à retirer du plastique et aider à retirer des filets dérivants. Oui.
Alors, ça commence quand, ces croisières ?
Si tout va bien, ça commencera à partir du 3 octobre.
Dans quelles eaux ?
On va partir aux Caraïbes. À partir du 3 octobre, on va faire de Amsterdam jusqu'aux Açores, le Cap-Vert, et ensuite, on fait une transatlantique pour arriver aux Caraïbes, où on a un travail qui va être effectué au niveau scientifique aux alentours des îles Caïmans, où on va faire de la cartographie maritime aux alentours de l'île. Et il y a un banc de plastique autour du Honduras. Et le gouvernement du Honduras nous a déjà sollicité justement pour pouvoir aller récupérer cette bande de plastique.
Voilà, Maxime de Rostolan, une autre façon d'agir ?
Bah, c'est bien, c'est cool. Bah, Julien, qui se présente comme quand même un collapsologue et qui affiche et affirme au effort que tout va s'effondrer, et ben on voit que malgré ça, et ben des gens trouvent les ressources pour agir. Et bravo à Julien, parce que moi je suis convaincu que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, et je suis ravi de pouvoir l'aider dès que je peux sur cette dynamique, parce que il faut, et que on aura, enfin, c'est 300 millions de tonnes, hein, dans l'océan, c'est pas 300 000 tonnes, donc il y a quand même 300 millions de tonnes, faut y aller, hein, va falloir. Et en même temps, là, pour le coup, on sait que il faut l'enlever, ce plastique. Il y a pas à dire, c'est un polymère qui sait pas se dégrader, donc il va falloir l'enlever. Et donc il faut s'y coller, et je sais pas si on y arrivera en 20 ans. En tout cas, plus tôt on commence, mieux ce sera.
Alors, vos démarches à tous les deux, l'un dans le domaine de l'agriculture, l'autre pour préserver la biodiversité de l'océan, prouvent qu'il est possible de s'engager pour changer le monde. C'est quand même le message de cette émission. Et cela sous-entend d'activer une autre loi de la jungle, beaucoup moins connue que celle de la rivalité, l'entraide, comme nous le rappelle l'ingénieur agronome Gauthier Chapelle.
En regardant le vivant, je dirais au quotidien depuis 40 ans, bien sûr, la prédation et la compétition, la loi de la jungle classique telle qu'on nous l'a apprise avec les griffes et les dents est là, mais il y a aussi de l'entraide vraiment à tous les étages, entre les arbres et les champignons, où en gros, pour faire simple, les champignons récoltent l'eau et les sels minéraux, les livrent aux arbres qui les payent en sucre. Mais ensemble, les champignons et les arbres ont inventé les allocations familiales et la sécurité sociale, parce qu'un même réseau de champignons va connecter des arbres de tailles différentes. Et en gros, les grands arbres bien exposés vont nourrir non seulement les champignons, mais aussi les petits arbres qui sont connectés aux mêmes champignons. Donc ça va très très loin, et en l'occurrence, c'est une symbiose clé, y compris pour nous, puisque c'est pas seulement les arbres qui la pratiquent, c'est à peu près 90% des espèces de plantes. Et de même chez nous, Moi, je dis souvent que si on prenait le métro en mode purement compétitif, ce serait beaucoup plus sauvage que ce que ça ne peut déjà être.
Gauthier Chapelle, auteur avec Pablo Servigne de L'Entraide, l'autre loi de la jungle, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Cela pourrait s'appliquer aux humains, non, cette autre loi de la jungle, l'entraide? Qu'en pensez-vous, Maxime de Rostolan?
Ah oui, mais enfin, c'est toute la complexité de nos actions, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans ces domaines-là et qu'ils ont du mal à se voir comme complémentaires, ils se voient plutôt comme concurrents et donc du coup ils passent leur temps à se tirer dans les pattes alors que tous ensemble, on serait beaucoup plus forts. Notre discours porterait bien plus face aux lobbies qui, eux, sont très bien organisés et ne militent que pour une seule chose, c'est pour plus d'argent pour les entreprises et les industries qui les emploient. Donc, oui, c'est compliqué, mais face à un problème, un défi d'intérêt général, je pense que la seule manière qu'on a de le résoudre, c'est de faire un gros chantier participatif. Et dans un chantier participatif, il faut s'écouter, il faut s'entraider, il faut se respecter.
Julien Vosnitsa.
C'était un peu le débat avec les végétariens, véganes, antispécistes. On a l'habitude un petit peu de tous se tirer dans les pattes. Voilà. L'idée, c'est qu'en face, les lobbies sont complètement solidaire. Et si jamais on veut avoir une simple force vis-à-vis contre ces lobbies-là, de la viande et de l'agroalimentaire en général, il va falloir qu'on reste soudés. Voilà.
Et ça passe par des initiatives parfois très simples. Par exemple, Maxime de Rostolan, vous avez invité les migrants maintenant dans votre dispositif Ferme d'Avenir.
Ouais. Alors nous, on a rejoint le groupe SOS il y a quelques années. Et en fait, l'idée, c'est de relier les considérations écologiques et les considérations sociales pour essayer de trouver des réponses qui soient un peu plus systémiques. Et effectivement, dans le parcours en compagnonnage de maraîchage bio qu'on a lancé l'année dernière, il nous manquait cette dimension. Enfin, on l'avait déjà, puisque c'est des fermes qui accueillent des personnes en formation, donc il y a déjà des échanges. Mais on se disait, il faut aussi profiter de cette aubaine, entre guillemets, de parcours qu'on est en train de créer pour mettre des gens qui viennent de pays de l'autre bout du monde et qui sont des migrants ou des réfugiés qui, dans leur pays, sont des paysans. Beaucoup d'entre eux sont des paysans et aujourd'hui on les parque dans des ghettos dans le 19e ou je sais pas où à Paris et ils sont pas du tout à leur place, ils sont perdus. Et en fait là on dit souvent en permaculture que le problème c'est la solution et là le problème c'est qu'on n'a pas assez de bras et qu'il y a des gens qui sont pas à leur place quand ils sont obligés de fuir leur pays. Et bien en fait on résout ça dans le bon sens quoi, avec un projet harmonieux et effectivement c'est un programme qui commencera en septembre avec 25 réfugiés. Ouais.
Voilà un bel exemple d'entraide. Julien Vosnitsa, donc vous mettez les voiles bientôt?
On met les voiles, ouais, au 3 octobre, en direction les Caraïbes.
C'est un bateau magnifique. J'espère vraiment que ça va faire des petits et qu'il y aura beaucoup de bateaux comme ça, parce que, voilà, clair, efficace. Bon, il y a du plastique, on prend un bateau, on y va, on va l'enlever. Et les techniques, d'ailleurs, Julien n'en a pas parlé, parce qu'il ne dévoile pas tout.
Mais dévoile. Moi, je pourrais, oui.
Oui, parce qu'il y a quoi? Il y a des techniques révolutionnaires.
En fait, l'idée, c'est de récupérer le plastique, le compacter, en faire des ballots de plastique avec une balise GPS qu'on relâcherait à la mer et que n'importe quel bateau en mer pourrait récupérer.
Et les ramener au port, on peut les mettre.
On peut soit en faire un amas de ballots derrière notre navire et le ramener au port, et ensuite en voir soit du recyclage, soit de la pyrolyse. La pyrolyse, c'est une réaction chimique qui permet de faire l'exact inverse, de transformer du pétrole en plastique. Ben là, on transforme du plastique en pétrole. Et ce qui pourrait fournir de l'énergie aux bateaux qui viendraient ramener justement ces ballots de plastique. Et l'idée, c'est qu'avec un certain nombre de bateaux compacteurs, il n'y aurait pas énormément... pas des besoins énormes de bateaux compacteurs. Si on utilise le fret actuel, enfin, ou tous les bateaux qui justement empruntent ces routes maritimes, il est possible de dépolluer énormément les océans avec des moyens qui seraient pas énormes vis-à-vis d'un État.
Voilà, et là aussi, il s'agit de faire jouer l'entraide. Merci à tous les deux d'être venus dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de vos livres, Pourquoi tout va s'effondrer, de Julien Vosnitsa, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent, et On a 20 ans pour changer le monde, de Maxime de Rostolan, publié chez Larousse. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure. L'épopée